Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, avec qui l'on discute passionnément des mesures qu'il a annoncées aujourd'hui pour améliorer la maîtrise du français écrit dans nos écoles. Ah, et à la question, avait-il oublié que la politique, c'était aussi difficile? Il répond, ben, peut-être un peu. Mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Mais bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de l'aide médicale à mourir. La ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, veut harmoniser son projet de loi avec le Code criminel. Et propose pour ça d'attendre un autre délai de 24 mois. Puis là, ben, il y a bien des gens qui sont atteints par des maladies qui sont outrés.
Ben moi, je ne doute pas que ça puisse demander du temps puis que ça soit compliqué de prévoir des formulaires, de parler aux autres professionnels, etc. Mais c'est vraiment sur la question, là, son affirmation, je dois attendre 24 mois pour harmoniser nos lois avec le fédéral. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas c'est quoi le but de cette affirmation-là.
Ouais.
Et je me demande si c'est vraiment une déclaration isolée de la ministre ou si c'est vraiment la position là, du gouvernement du Québec.
Mm.
Parce que j'ai l'impression qu'on a plus à faire ici. T'sais, on a souvent des chicanes de compétences quand deux gouvernements veulent s'occuper de la même affaire en même temps.
Oui.
Mais là, on est plutôt dans une chicane d'incompétence.
Ah oui, j'adore quand tu reprends cette expression, Patrick.
Ben, c'est-à-dire, toutes ces situations où on utilise le fédéralisme comme un prétexte pour dire « je veux pas m'occuper de ça, je veux attendre, je veux pas agir, c'est parce que l'autre palier du gouvernement. »
Tu l'as utilisé pour les armes à feu. Chicane d'incompétence. Tout le monde essayait de dire « non, c'est à l'autre à s'en occuper des armes à feu, pas à moi. »
Mettons qu'il y a des déversements de substances toxiques sur une réserve autochtone. Oui. Alors, on ne sait plus quel ministère de l'Environnement va intervenir. Tout le monde se lance la balle. Et là, c'est ça qu'on a devant nous. Parce que, bon, il y a des gens qui ont semé l'idée, notamment, je pense, le barreau dans leur intervention en commission parlementaire, qu'il y aurait un conflit entre les deux lois. Mais là, je ne vois pas ce conflit, Antoine.
Non.
Le code criminel, c'est fait pour décriminaliser. Puis une fois que le code criminel décriminalise des choses, ben là, il revient, c'est normal, c'est un jeu de vaste communicant, que ce soit le cannabis, l'avortement ou n'importe quelle autre question qu'on décriminalise, ben après, si c'est plus criminalisé, après, ben la matière retourne vers le droit provincial parce que il s'agit, dans le cas qui nous occupe, de santé, de droit professionnel. Il s'agit des règles de base de notre code civil sur qui peut consentir à des soins, à des traitements.
Mmh.
Donc, c'est normal que Québec...
Parce que si c'est pas de l'euthanasie interdite par les tribunaux, ben ça devient une sorte de soin de fin de vie, selon l'expression consacrée.
Exactement. Et donc, le rôle de...
Et les soins, c'est les provinces qui s'en occupent.
Effectivement. Et donc, le rôle d'Ottawa, c'est de tracer une ligne entre ce qui est criminel et ce qui ne l'est pas. Puis une fois qu'il dit « je décriminalise s'il y a un consentement,
ouais,
si c'est pratiqué par un professionnel de la santé », ben là, c'est à Québec d'exercer sa compétence pour dire « c'est quoi un consentement ?» Puis c'est quoi un professionnel de la santé? C'est pas le code criminel qui va nous dire « voici ce qu'est une infirmière accréditée prête à pratiquer l'aide médicale à mourir
mm-hmm. ».
C'est aux provinces de définir ça. Même chose pour le consentement anticipé.
Ouais.
Et donc, Québec est dans sa compétence. Ça a été validé par les tribunaux à quelques reprises que la loi québécoise sur l'aide médicale à mourir est un exercice là, de la compétence provinciale en matière de santé. Et il n'y a pas de conflit entre les deux lois, c'est ça qui est la nouvelle crainte, mais il n'y a pas de conflit parce qu'il est possible d'additionner le code criminel et la nouvelle loi. Là.
Ouais.
Et c'est ça qu'il faut faire. Avant de voir des conflits entre les deux codes, entre les deux lois, il faut tout simplement essayer de les additionner. Et attendre, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien d'attendre, Antoine, parce que là, on a l'impression que oui, à Ottawa, on va avoir un nouveau projet de loi parce qu'on a repoussé d'un an, mais la question qui est à l'ordre du jour à Ottawa, c'est pas le consentement anticipé, c'est la délicate question de la santé mentale.
Oui, c'est vrai.
Et donc, c'est comme si la ministre nous dit, moi, je vais attendre parce qu'Ottawa va bouger bientôt. Oh, non, non, Ottawa, il se prépare à bouger sur la santé mentale et pas du tout sur l'objet qui nous occupe.
Mmh.
Et là, le Sénat a imposé d'inclure les cas de uniquement de problèmes uniquement fondés sur la santé mentale.
Oui.
Et mais en l'assortissant d'un délai, puis là déjà le Parlement fédéral commence avec une loi récente à repousser ce délai. Et ma prédiction, je l'avais fait il y a quelques mois à ce micro,
oui.
Il va y avoir d'autres prolongations parce que le code criminel, c'est tout simplement pas le bon outil pour gérer des questions aussi complexes de lesquelles maladies mentales on devrait mettre dans la catégorie des maladies admissibles à l'aide médicale à mourir, lesquelles il faudrait plutôt, au contraire, choisir la solution inverse. C'est beaucoup trop complexe et c'est ça le but. Le code criminel, ça criminalise. Après, ça crée des exceptions qui sont régies par le droit des provinces. Et c'est là qu'Ottawa doit apprendre à minimiser là, les détails de son code criminel en ces matières.
Mais est-ce que les médecins n'ont pas peur d'être poursuivis?
Ben, c'est ça le problème. Hein? C'est légitime. Les médecins, autres, ils se sont fait dire « Attention, il y a peut-être une contradiction entre les deux lois, contradiction qui n'existe pas. » Mais là, à partir de là, ils ont peur d'être poursuivis. Mais encore une fois, admettons que je me trompe. Là,
ouais.
Là où je dis, il n'y a pas de contradiction, finalement, il y a un juge, ça peut arriver, qui est nommé par Ottawa, qui dit, non, moi, je vois une contradiction. Ça reste encore un faux problème, Antoine. Parce que pour qu'il y ait une poursuite au criminel, pour qu'un médecin soit poursuivi au criminel, il faut une poursuite. Et cette poursuite, elle n'est pas introduite par le fédéral. Ce sont les provinces qui appliquent le code criminel.
Oui.
Donc, pour qu'un médecin soit poursuivi pour avoir contrevenu au code criminel en matière d'aide médicale à mourir, il faut que le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec introduise une poursuite.
Ah oui.
C'est comme
ça. OK, bien, ça fait penser à l'avortement, ça. C'est Marc-André Bédard, qui est le ministre de la Justice de René Lévesque, qui avait dit on ne poursuit pas dans les cas d'avortement, donc on n'applique pas, finalement, cette disposition du code criminel.
Puis en Colombie-Britannique, encore récemment, ils disent, nous autres, c'est fini les drogues, là, on poursuit plus là-dessus, et de facto, on décriminalise les drogues.
OK.
Et en 2013-2014, lorsqu'il a été question de la première loi sur l'aide médicale à mourir, ben au cœur de la stratégie du Québec, c'est-à-dire, écoutez, de toute façon, les poursuites, c'est nous qui les gérons, on va émettre des instructions au DPCP, il n'y aura pas de problème.
Bon.
Et donc, il y a une immense...
Faudrait expliquer ça à Mme Bélanger, alors.
Ben, on le fait par l'entremise de ce micro.
Voilà, Mme Bélanger, êtes-vous à l'écoute?
Mais il y a tout un contraste, là. Entre 2012-2014, lorsqu'on élabore notre première loi sur l'aide médicale à mourir, là,
ben oui.
On a une charte, Hilaire Rodriguez, qui nous dit « Vous n'avez pas le droit. L'aide au suicide, c'est contraire à la charte à l'époque, avant l'arrêt Carter. » On a un code criminel qui l'interdit. Puis malgré tout, on fait preuve d'imagination, on travaille sur la fin de vie, les soins palliatifs, les autres professionnels.
Ça, c'est en 2014. Là, le législateur fait son travail puis il joue d'audace.
Exactement.
Alors que le contexte est beaucoup plus restrictif.
Là, on est en 2023. La charte n'est plus un obstacle depuis Carter 2015, Cour suprême.
Ça, c'est de la jurisprudence, parfait.
Exactement,
oui.
Qui a viré complètement son chapeau de bord sur la question de l'aide médicale à mourir. La validité de la loi québécoise a été confirmée par d'autres décisions.
Ouais.
Là, on a un gouvernement qui, à mon avis, un gouvernement du Québec devrait commencer à songer à contester un code criminel qui va trop loin, qui s'ingère dans nos compétences. Ça s'en vient, on commence à le voir. Mais plutôt que de faire ça, on a un gouvernement qui dit « Non, non, moi je me couche, puis je veux parler à Ottawa, je veux harmoniser ma loi. » Puis je comprends pas ce que la ministre veut dire par « harmoniser ». Est-ce qu'elle veut dire que dans quelques mois, elle voudrait modifier sa loi pour l'agencer à la future loi qu'adopterait Ottawa.
C'est à se demander si elle a consulté le jurisconsulte du gouvernement, soit le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui n'est pas du genre à se coucher devant le fédéral.
Ou encore le ministre des Affaires, des Relations canadiennes, qui lui aussi est dépositaire là, des positions constitutionnelles du Québec.
Ouais.
Pour ça, je me dis, est-ce que c'est une déclaration isolée?
Ou mais lui qui a l'air d'être plus bon ententiste que Simon-Jolin Barrette.
Ouais.
Passons au deuxième sujet maintenant, Patrick. Québec solidaire, tu veux nous parler de Québec solidaire qui vivra une première course à l'ancienne dans son parti, dans son... comment on peut appeler ça? Le co-porte-parole-là? C'est le mot que j'ai utilisé, que j'ai essayé de forger l'autre fois dans ma chronique.
C'est important pour la démocratie en général, la démocratie qui s'organise à l'intérieur des partis. Tu as toi-même écrit deux très belles chroniques récemment sur l'ampleur des fonds publics qu'on investit dans ces partis-là, puis
l'enjeu
que ça serve à quelque chose, puis à produire des idées.
Et, pas juste d'être des clubs de supporters, là.
Exactement.
Ouais.
Et moi, j'ai toujours été fasciné par la conception de la démocratie à Québec solidaire, mais aussi dans certains nouveaux partis de gauche. Là, je pense aux Insoumis en France, à Podemos en Espagne.
Mmh.
Et on a des partis avec une base interne, une vie partisane très intense, mais qui sont quand même assez peu enclins au vote, à compter les forces en présence.
Ah.
Tous les autres chefs, là, co-porte-parole, me semble avoir été désigné de manière relativement consensuelle. Ou en tout cas, s'il y a eu un vote, là, c'était pas déterminant. On savait à l'avance qui allait gagner.
Ouais.
Et c'est pas pour rien. Il y a une volonté dans ces partis-là, une certaine pudeur à l'endroit d'une démocratie qui serait trop personnalisée. Là, on veut un pouvoir qui est plus collectif, la collégialité.
Ouais, ouais.
Et quelque part, une course, c'est l'aspiration, l'ambition personnelle au pouvoir. Et c'est des partis qui, ces nouveaux mouvements de gauche, se définissent souvent par rapport aux partis qu'ils ont quittés. Et j'ai toujours remarqué que dans l'aile parlementaire de Québec solidaire, il y a une méthode de travail qui minimise énormément les divisions. C'est un groupe parlementaire qui se divise très peu publiquement.
Ouais.
Et comme si, là, je les imagine tard le soir en train de parler fort entre eux, sur une position commune.
Ouais.
Et après, ben, pas de division. Pas de division, pas juste par rapport aux médias, mais pas de division aussi, c'est une manière de gérer aussi les militants. C'est-à-dire que cette démocratie interne de militants qui exige beaucoup, pour la gérer, ça prend une aile parlementaire unie.
Ah oui.
Et là, c'est
bien soudé, oui.
Ben oui. Et là, c'est la première fois qu'en quelque sorte, parce que bon, je mets Émilie-Lise
Lessard-Terrien,
un peu comme une membre de l'aile parlementaire, elle l'a été pendant plusieurs années. C'est un peu comme si l'establishment du parti était prêt à maturité pour une première fois se diviser devant les militants,
ouais.
Se compter et vivre une personnalisation du pouvoir. Alors moi, ça, c'est l'aspect qui me fascine. J'ai cherché aujourd'hui, bon, je me suis pris assez d'avance, mais je voulais voir les statuts et règlements du parti.
Ah oui.
Qui vote? Bon, à la blague, on peut se dire, est-ce que c'est seulement les membres de sexe féminin qui votent pour le porte-parole de sexe féminin? Probablement pas, là. Mais chose certaine, j'ai hâte de voir et de vérifier, est-ce que c'est un militant un vote? Ou est-ce qu'il y a une pondération par circonscription ou par région? Ça va être une variable importante, là.
Oui.
Est-ce qu'un vote des membres du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça compte par un certain nombre de points dans la circonscription ou la région, ou ça compte un vote dans le grand bol des votes qui s'additionnent aux nombreux votes montréalais? Ça, pour l'avenir du parti aussi, sa capacité à se connecter aux régions... Je pense que c'est une modalité du vote qui va être assez déterminante.
En terminant, est-ce que tu penses que, sur un autre sujet, sur un autre aspect de Québec solidaire, est-ce que tu penses que ce sont des gens, dans le jargon de notre chronique consti, qui s'érotisent? Au sens où...
À la question.
Sont-ils érotisés par la question constitutionnelle, Patrick?
Mais c'est l'autre aspect que je vais surveiller de près. Puis souvent, dans le débat public, c'est est-ce que Québec solidaire est assez souverainiste? C'est souvent comme ça que c'est amené dans le débat. Mais moi, je la pose de façon plus large. Quel est le rapport de Québec solidaire aux intérêts constitutionnels du Québec. Souvent, sur les dossiers plus institutionnels, comme le serment, la réforme du mode de scrutin, c'est plus facile d'entendre leur position. Mais quand ça touche au rapport à Ottawa sur les questions de compétences, là, c'est plus difficile. Qu'est-ce que pense QS des intrusions fédérales en santé, des programmes de soins dentaires du fédéral, de l'assurance médicaments du fédéral, du financement de la recherche universitaire par le fédéral, du logement social financé par le fédéral? C'est un peu comme parfois, nous, quand on parle du troisième lien, hein? On voudrait que le Québec soit autonome, mais en même temps, quand Ottawa met des bâtons dans les roues du projet du troisième lien, ben ça fait en même temps l'affaire. Donc, quelle importance qu'on... Est-ce que tous les gestes d'Ottawa sont les bienvenus tant qu'ils vont dans le sens des programmes sociaux voulus par Québec solidaire, ou il y a un seuil à partir duquel Québec solidaire est capable de dire non? Le projet de société qu'on a, on veut le construire à Québec non pas à partir d'Ottawa.
Mais moi, je me souviens de Gabriel Nadeau-Dubois qui a déjà dit, moi, là, jouer à « ne touche pas à ma compétence avec Ottawa », honnêtement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et je trouve que ça résume tellement leur état d'esprit face à ces questions.
Et dans le vaste mouvement de professionnalisation du parti qu'a entrepris Gabriel Nadeau-Dubois, ben, il pourra pas faire l'économie de cette question constitutionnelle. C'est pas parce que c'est pas l'article premier de QS que si QS veut croître en région, c'est pas vrai qu'ils peuvent complètement faire fi de ces questions constitutionnelles puis de la tension que ça crée entre la Ottawa qui veut intervenir en toute matière en santé et leur aspiration à plus de programmes sociaux. Dans quelle mesure on défend les intérêts du Québec dans tout ça? Ça devient Québec solidaire une quadrature du cercle.
Pour moi, c'est une énigme. Pour moi, c'est une énigme. Quand on élit un chef syndical, et Dieu sait qu'ils ont la culture syndicale, on veut qu'ils défendent les intérêts vraiment de leur groupe, de leur syndicat, de leurs membres. Or, on n'a pas l'impression en les écoutant qu'ils veulent défendre les intérêts du Québec, en tout cas sur ce plan-là constitutionnel, pas du tout.
Et il ne faudra pas que la souveraineté, là, le rêve d'un grand, grand soir très lointain, devient le prétexte utile pour ne pas parler de la défense des intérêts du Québec.
Voilà.
Et espérons que la course va permettre un débat sur ces questions.
Merci beaucoup, Patrick Taillon.
C'est moi qui te remercie.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.